bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Ils flottent tous en bas. Toi aussi, tu flotteras.
I got a balloon for you.
Je vais vous parler de ça. Ça quoi ? Ben, ça. Ça est un livre de Stephen King, écrit en 1986. C'est un livre qui fait référence à une ville qui s'appelle Derry. Ville imaginaire, mais tellement complétée dans le livre avec des anecdotes par-ci par-là qu'elle nous devient réelle. Une ville sombre où des enfants, tous les 27 ans, sont tués. Pourquoi ? À cause de ça. Ça incarne les peurs des enfants. Que ce soit clown, momie, loup-garou, tout y passe. Dans cet univers, on va passer des années 50 aux années 80, donc entre deux phases de meurtre. Dans la première phase, on va suivre des enfants qui ont 10 et 12 ans, qui vont ensuite revenir pour la deuxième phase. Bien sûr, c'est du Stephen King, donc c'est pas linéaire. Dans le livre, tout va être entrecoupé entre des scènes des années 50 et des scènes des années 80. Des scènes où les protagonistes sont enfants et des scènes où les protagonistes sont adultes. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que enfants et adultes se confondent. C'est une histoire qui parle aussi beaucoup d'amitié, de promesses, de souffrances, de mémoire, qui quand ils sont adultes est complètement biaisée et qu'ils retrouvent quand ils reviennent à Derry et qu'ils acceptent leur part d'enfance, d'imagination, car ça fait du mal qu'à ceux qui croient en lui. Et quoi de mieux que l'imagination des enfants ? Ça parle aussi du passage à l'âge adulte, comme une sorte de quête initiatique.
Et pour ceux qui auraient peur de lire le clown, mais qui n'auraient pas peur de le voir, eh bien, il existe un film, ou plutôt deux téléfilms, datant de 1990. La totalité dure à peu près 3 heures, donc préparez-vous à trembler. Non, je déconne. Les films sont très fidèles, mais ont très très mal vieilli. Pour les plus réticents envers les vieux films, un remake en deux parties sortira dans un an environ. Et d'ici là, si vous voyez des ballons colorés et entendez un rire à vous glacer le sang, fuyez.
See you in your dreams. Oh, come back anytime. Bring your friends.
Un œil, l'œil de Mordor, l'œil de Sauron. Une présence menaçante, omniprésente, glaçante. Voilà ce qu'est Sauron, le méchant de fantaisie. Sauron est le seigneur de Mordor, mais c'est avant tout un Maia. Il a forgé les anneaux de pouvoir, pouvoir répartis entre les races. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas. Mais Sauron, perverti par Morgoth, forgea l'anneau unique. L'anneau pour les gouverner tous, pour les trouver et les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Son projet de vie, s'emparer de cet anneau que Bilbon Sacquet a ramené de ses voyages. Voilà l'état des choses au début du Seigneur des Anneaux. Sauron a remplacé les 9 entre ses mains, les 7 aussi, ou bien ils sont détruits. Les 3 sont encore cachés, mais cela ne le gêne plus. Il ne lui faut plus que l'unique, car il a fabriqué cet anneau pour lui-même, il est à lui et il y a laissé dedans une grande part de sa puissance, de façon à pouvoir gouverner tous les autres. S'il le recouvre, il les commandera tous, de nouveau, où qu'ils soient, même les 3 des elfes. Tout ce qui a été forgé avec eux sera mis à nu et il sera plus puissant que jamais. Je ne vais pas vous faire toute la bio de Sauron que l'on trouve dans le Silmarillion de Tolkien, mais on dit que Sauron est très beau. On s'en moque finalement, vu que c'est un Maya, il peut changer de forme. Tout ce qu'on voit, c'est son œil rouge, incandescent, cette pupille noire en son centre. Cet œil, c'est le pouvoir qui suinte du Mordor, un pouvoir auquel se confrontera la communauté de l'anneau, dans le livre du même nom, puis Sam et Frodon, seuls, dans le retour du roi. Frodon vaincra Sauron en se combattant lui-même et en combattant l'emprise qu'a l'anneau sur lui. Il détruira l'anneau et Sauron ne mourra pas. C'est le privilège des vrais méchants, c'est de rester vivant. Sauron sera alors une ombre latente et sans pouvoir qui erre en terre du milieu en attendant la fin du monde.
Les Goa'uld. Les Goa'uld. Oui. Ce nom qui vous empâte la bouche est en fait le nom d'une entité extraterrestre qui se balade de planète en planète pour asservir la population locale en esclavage. C'est une espèce extraterrestre qui est en fait un parasite, qui prend la possession d'autres individus, faisant d'eux des hôtes. Certains de ces hôtes, on les appelle les Jaffa. Les Jaffa, c'est une autre espèce extraterrestre, qui, elle, est complètement asservie aux Goa'uld. Les Jaffa appartiennent chacun à un Goa'uld différent. Pour déterminer leur appartenance, ils portent sur le front la marque de leur maître. Les Goa'uld sont aussi des usurpateurs. Pour assurer leur suprématie, ils se font passer pour des dieux. Ra, Hathor, Horus, nos dieux égyptiens, en somme. Eh bien oui, nos dieux égyptiens étaient des Goa'uld. Stargate raconte l'histoire de la découverte d'une porte, la Porte des Étoiles en Égypte. Le colonel O'Neill, un groupe de militaires et de scientifiques, traverse la porte et découvre un autre monde, sur une autre planète. Il rencontre les Goa'uld. Il rencontre des autres civilisations, des peuples asservis qu'ils essayent de délivrer. Stargate, c'est un film qui retrace la découverte de la Porte des Étoiles. Stargate, c'est aussi plusieurs séries. La première, Stargate SG-1, se concentre sur une équipe de militaires qui vont de monde en monde afin de découvrir de nouvelles technologies, mais aussi de détruire les Goa'uld. Deux autres films complètent la série, Stargate L'Arche de Vérité et Stargate Continuum. Vous l'avez saisi, Stargate est une franchise qu'on utilise à rallonge, au point d'en faire plusieurs séries annexes qui sont plutôt chouettes. Stargate Atlantis, Stargate Universe. Mais les Goa'uld, c'est peut-être les méchants les plus cruels que Stargate ait mis en scène. Alors, si vous avez le courage, passez la Porte des Étoiles et allez à la rencontre de mondes merveilleux. Mais prenez garde. Les Goa'uld ne sont jamais loin, et ils n'auront pas de pitié. Et avant que vous ayez pu dire « ouf », vous n'existerez plus.
Chevron 7, locked.
Imaginez une gigantesque boîte qui se balade dans l'espace. Imaginez que ces boîtes sont plusieurs et que ce sont des machines millénaires, un peu rouillées, un peu trouées, mais lourdement armées, dont toutes les réactions sont imprévisibles, à part une seule, tuer toute vie biologique. La machine était une vaste forteresse qui n'abritait aucune forme de vie, mais elle avait été programmée une fois pour toutes par ses maîtres, morts depuis bien longtemps, à détruire tout ce qui vivait. Elle et une centaine d'autres semblables constituaient l'héritage que la Terre avait reçu de quelques guerres menées entre des empires interstellaires. La plupart des populations de l'univers sont décimées, les planètes sont détruites, les survivants sont rares, parmi lesquels les hommes, sauvés par leur propension à faire la guerre dès qu'ils s'ennuient. C'est plutôt utile de créer des armées quand on est attaqué. Les populations sont réfugiées à proximité des humains, mais la survie est dure. Il ne reste pas grand-chose des armées humaines. Les déplacements sont compliqués, la technologie se délite, et il faut 3 vaisseaux pour dégommer un seul berserker, qui sait en plus appliquer la ruse grâce à une emprise mentale qu'il peut avoir sur les humains. Ah oui, je vous ai pas dit, ces fameux méchants en métal, on appelle ça des berserkers, comme les guerriers nordiques dont le but était de tuer et piller. Les berserkers de Saberhagen se développent en nouvelle sur 8 hommes. Ils tuent et ne pillent pas, ils dégomment sans distinction. Et pourquoi ? Rester les maîtres de l'univers ? Même pas. Ils n'en ont pas conscience. Pour cette prise de notes transgenre, il faut que vous preniez votre petit crayon et votre petit carnet pour noter que si vous voulez rencontrer de vrais méchants, il vous faut lire Berserker de Saberhagen pour la SF, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien pour la fantasy et ça de Stephen King pour le fantastique, avec un petit détour par la série ou le film Stargate, ça fait toujours plaisir.